Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la Libre Antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. C'est l'occasion, si vous le souhaitez évidemment, de nous interpeller sur des sujets qui ne font pas la une de la presse. L'occasion également de revenir peut-être sur des sujets que nous avons débattus tout au long de la semaine. En tout cas, c'est vous qui décidez du contenu de cette émission. 33 9 693 693 70. Et vos réactions également sur nos réseaux sociaux, le compte WhatsApp d'appel sur l'actualité ou encore la page Facebook d'appel sur l'actualité, le compte Twitter également. J'ai vu que vous êtes quelques-uns aussi à nous envoyer des messages via le compte Instagram d'appel sur l'actualité. Bref, Fouque Folleur, qui s'occupe des réseaux sociaux, a un œil sur tous ces moyens de communication et elle nous transfère au fur et à mesure vos réactions. On va commencer en parlant du Sénégal, où plusieurs syndicats de transporteurs sont en grève pour dénoncer les mesures annoncées par le gouvernement pour réduire le nombre d'accidents sur la route. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Dakar et vous ne soutenez pas du tout cette grève, vous?
Non, cette grève est illégale parce qu'une grève, pour être une grève, doit être précédée d'un préavis de grève. Ça n'a pas été le cas. On comprend que les gens peuvent manifester leur ressenti, mais brusquement prendre la décision de gréver, bon, voilà, et on se retrouve devant le fait accompli.
Et du coup, vous craignez qu'une partie du pays soit bloquée?
Bon, bloquée peut-être parce que comme toute manifestation ou tout rassemblement, il y a des gens qui n'adhèrent pas. Peut-être que ça dépendra du nombre de grévistes et de non-grévistes, c'est ça. Ouais. Mais ce que l'on ne va pas accepter, c'est de pouvoir imposer sa loi aux autres. Parce que ceux qui ne veulent pas gréver sont libres de partir d'aller là où ils veulent. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je dis.
Mais... Alors, vous dites ça, mais que dites-vous concernant les raisons invoquées par ces syndicats pour justifier la grève? Ils dénoncent, je le disais, plusieurs mesures adoptées par le gouvernement il y a quelques jours pour essayer de réduire le nombre d'accidents de la route. Il y a quand même eu, en une semaine, 60 personnes tuées sur la route dans deux collisions impliquant des bus. Et les syndicats dénoncent notamment l'interdiction pour les véhicules de transport collectif interurbain de circuler la nuit entre 23h et 5h.
Oui, il y a ça, mais la circulation de nuit, c'est possible, mais c'est que ces chauffeurs sont d'une indiscipline notoire. Si vous circulez la nuit à Dakar, vous rencontrez en campagne, vous avez des lumières. Tout le véhicule, vous avez l'impression de voir, je ne sais pas, un festival de lumière. Et vous avez des phares blancs qui éblouissent les gens qui viennent en face. En plus de cela, ils sont dans une conduite vraiment désinvolte.
Donc vous, Ibrahim, donc cette mesure d'interdire la circulation la nuit des véhicules de transport collectif, c'est une bonne décision du gouvernement, à vous entendre?
Non seulement c'est une bonne décision, mais ce n'est pas tout. Moi, je dis que même le gouvernement a été un peu faible parce qu'il faut revoir complètement la manière dont les permis sont donnés. Et ensuite, le niveau de formation de ces gens-là. Il faut tout de suite mettre le pied dans le plat, aller plus loin que ça. Parce que, Juan, nous assistons maintenant à une série d'accidents, mais il y a beaucoup plus de défaillance humaine qu'autre chose.
Des accidents qui suscitent beaucoup d'émotions sur place, mais aussi la colère. Et cette colère, elle est contre le gouvernement, contre les transporteurs, contre les automobilistes, l'incivisme de certains conducteurs. C'est vrai qu'on sent bien qu'il y a... Voilà, c'est un dossier à traiter et à traiter en urgence. Ibrahim, ne raccrochez pas, vous êtes à Dakar. Ousseynou nous appelle de Louga. Bonjour Ousseynou.
Oui, bonjour.
Et contrairement à Ibrahim qui est dans la capitale, vous soutenez les transporteurs?
Oui. Oui. Moi, je suis presque... D'abord, pour la grève, je vais essayer de rebondir sur quelques propos d'Ibrahim qui nous a dit ce qui fait mal, c'est parce que les chauffeurs sont partis en grève sans préavis. Là où l'État a pris ses 23 maudits sans préavis. ce qui le fait moins, c'est le manque de concertation des syndicats de transport et aussi l'impossibilité de partir de certaines mesures comme l'interdiction de circuler de 23h à 5h du matin. Au moment où, au Sénégal, une bonne partie des voyageurs préfèrent voyager à cette heure pour plusieurs raisons. Donc, à cette heure, les routes sont moins fréquentées au moment où on parle d'étroitesse des routes.
Donc vous dites que la nuit, on circule mieux sur les routes, il y a moins de voitures, il y a également une question de climat, il fait plus frais, donc c'est peut-être plus confortable, plus agréable de rouler la nuit, surtout quand ces bus n'ont pas l'air conditionné.
Exact.
Et donc ?
Oui. Oui, et aussi, la plupart de ces voyageurs sont des commerçants qui partent pour aller rejoindre des marchés hebdomadaires. Donc, ils préfèrent ces temps pour au moins être à l'heure à 8h ou 9h.
Ouais. Vous dites qu'on ne peut pas interdire la circulation la nuit, ça pose trop de problèmes pour ceux qui ont besoin effectivement de voyager la nuit, et vous citiez les commerçants, les transporteurs de marchandises, etc., pour qui ont besoin effectivement de livrer au petit matin les nombreux marchés, notamment de la capitale. Ousseynou, merci infiniment, Ibrahim également, bonne journée à tous les deux au Sénégal, et on aura l'occasion évidemment de revenir sur l'insécurité routière très vite. C'est un sujet qui a suscité beaucoup, beaucoup de réactions cette semaine au standard d'appel sur l'actualité. On en parlait en première partie d'émission dans vos questions à la rédaction. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bonjour César.
Bonjour Juan.
Merci de nous appeler. Vous êtes à Lubumbashi. Nous parlions tout à l'heure des manifestations, notamment à Goma ce mercredi, pour protester contre le déploiement de la force est-africaine qui a été déployée dans votre pays pour lutter contre les rebelles du M23. Et vous soutenez les manifestants. Vous comprenez leur colère.
Effectivement, Juan. Je comprends la colère des manifestants. Et je crois que c'est une colère qui est ressentie par tous les Congolais, parce que cette force, depuis son déploiement, force est de constater que non, elle ne fait rien sur le terrain, donc elle ne combat pas les rebelles, et elle s'est finalement donc avérée comme étant une force tampon entre les positions rebelles et les positions des forces régulières. Donc ce qui au départ n'était pas prévu.
Oui.
Donc,
elle est, cette force n'est pas là pour faire tampon, elle est censée être là pour combattre les rebelles s'ils ne respectent pas leurs engagements, et notamment celui de se retirer des zones qu'ils ont récemment, dont elles ont récemment pris le contrôle. En même temps, la force est-africaine dit il faut d'abord privilégier la voie politique, donc les négociations, avant d'entamer le combat.
Mais Juan, la voie diplomatique a été privilégiée, évidemment. Il y a eu le processus de Luanda, il y a eu le processus de Nairobi, donc ils devaient tout simplement se retirer. Et le délai qui leur avait été imparti a expiré le 15 janvier dernier. Donc ce qui fait que non, à l'heure actuelle, on ne peut plus parler d'une observation.
César, il est temps pour vous que la force commence à combattre.
La force devait combattre. Elle ne veut pas combattre, elle doit plier bagage et repartir chez elle. Donc c'est tout simplement ça. Donc les Congolais veulent voir cette force faire son travail. Donc si elle ne veut pas faire son travail, elle doit laisser place à l'armée régulière, donc mener les opérations elle seule.
César, merci de nous avoir interpellés sur cette problématique. On continue à parler de la situation sécuritaire dans l'Est du pays avec Justin. Bonjour.
Bonjour Monsieur Juan, bonjour à toute la famille de la Radio du Monde.
Et merci à vous de votre confiance et de nous appeler de Bounia dans la province de l'Ituri, province qui connaît une recrudescence des attaques, et vous êtes, vous, de plus en plus inquiet.
Oui, en tout cas, Monsieur Juan, c'est très inquiétant. Voyez tout ce qui se passe à travers le pays, particulièrement dans les deux provinces sous l'état de siège, donc la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Vous êtes sans ignorer que hier, la population était paralysée suite à la force commune retrouvée dans le territoire de Ndjougou, et voir aussi les dimanches, ce qui s'est passé à pleine messe, monsieur, la bombe qui s'est éclatée dans la messe, et puis nous sommes sous l'état de siège. En tout cas, c'est très déplorable à travers le pays.
Ouais. Trois fosses communes découvertes par les casques bleus de la MONUSCO dans le territoire effectivement de Djougou, en Ituri. 49 corps ont été retrouvés. Vous disiez justement que la province de l'Ituri, là où vous êtes, était décrétée ville morte hier. Et même aujourd'hui, il me semble, hein, je crois, Justin, ça veut dire quoi? Que les commerces sont fermés ou comment ça se passe?
Et donc, toutes les activités ont été paralysées suite à la colère. Donc, il y avait une grande colère que la population avait eu en voyant la tuerie, toutes les tueries qui se passent dans les pays et aussi dans les territoires de Ndjougou et donc dans toute la province de l'Ituri.
Très bien. Justin, vous disiez au Standard, et ça me semblait important, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous entendre, c'est que vous trouvez qu'on parle beaucoup du M23, qu'on parle beaucoup du Nord Kivu, et que finalement, on a un peu oublié votre province, l'Ituri. Quand je dis « on », ce sont les médias, mais aussi vos autorités.
Oui, monsieur Ewan. Donc, moi, je regrette la première question que j'ai, monsieur Ewan. Pourquoi canaliser tous les moyens pour combattre l'M23 alors que nous avons des groupes armés qui continuent à semer la terreur, à voir dans la province de l'Ituri et voir même certains territoires du Nord Kivu.
Ouais, c'est vrai que. L'armée a concentré ses efforts, concentre désormais ses efforts dans le Nord Kivu pour combattre le M23. Et les régiments ou le régiment qui était en Ituri a été déployé au Nord Kivu. Donc vous avez un peu le sentiment d'être un peu livré à vous-même. Justin, merci infiniment de ce témoignage à Bounia. Bon courage à vous dans la province de l'Ituri. C'est la Libre Antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. Vous êtes nombreux à suivre, évidemment, vous qui êtes en Guinée, le procès du massacre du 28 septembre 2009. Cette semaine, Moussa Dadis Camara a de nouveau comparu. C'était l'homme fort du pays au moment de ces événements. Évidemment, ses interventions sont scrutées, analysées. Bonjour Salah.
Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs à travers le monde.
Ouh là là, Salah, vous avez peut-être plusieurs téléphones en même temps. Certains ont dû vous reconnaître et vous appellent en même temps. Coupez les autres téléphones qu'on puisse dialoguer, Sana. Vous avez écouté Moussa Dadis Camara cette semaine, puisqu'il a comparu de nouveau. Et il a une fois de plus développé sa thèse du complot. Et vous n'avez pas du tout, mais pas du tout été convaincu par cette version des faits.
Justement, Juan, j'ai compris et je suis de près ce procès. Et Moussa Dadis Camara, c'était juste une diversion pour croire que c'était un complot. Mais bon, à travers les preuves, à travers les démonstrations faites par les avocats, on a compris que c'est loin d'être un complot. Parce que les personnes qui le choisissent des comploteurs, notamment le ministre de la Défense à l'époque des faits, Sékouba Konaté. Oui. Sékouba Konaté était parti en forêt, et notamment à, je ne me rappelle pas le nom de la ville, il est parti tenir un discours, et ce discours-là, le contenu du discours-là, les gens ont lu ce discours-là, les gens ont suivi, parce qu'il y a eu des vidéos même de Sékouba Konaté, et à Massanta, bien sûr, c'était à Massanta. Donc c'était la candidature de Moussa Dadis Camara. Comment se fait-il que celui qui est venu faire un complot, et puis il était parti avec un papacoli. Donc, on a compris que ce n'était pas un complot. Donc, il faudrait encore d'autres arguments, peut-être pour sortir dans cette affaire. Sinon, pour l'instant, on ne croit pas à sa thèse de complot, justement, nous qui suivons de près.
Vous qui suivez de près, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont se déroule ce procès, Sana? Procès qui était quand même très, très attendu par les Guinéens.
Oui, pour l'instant, je suis convaincu de la façon dont le procès se déroule, parce qu'au départ, on avait tendance à dire que les gens n'avaient pas les avocats n'avaient pas de notion, les avocats n'avaient pas de... Mais au fil du temps, le procès avance, on comprend que oui, la situation change, les choses s'améliorent, et petit à petit, les éléments commencent à sortir. ça rassure un peu. Parce que si...
Oui, enfin, les éléments commencent à sortir, très honnêtement. Alors moi qui écoute les comptes rendus d'audience de nos correspondants sur place, Mathias Reynal et Mukhtar Bah, il y a peu d'éléments nouveaux qui ressortent des audiences depuis maintenant deux semaines, hein, très honnêtement. Mais enfin, on va suivre évidemment ce procès et on organisera une émission justement sur la façon dont Moussa Dadis Camara se comporte à la barre. Il y a eu les coups de colère la semaine dernière. Cette semaine, bon, il a été plus calme. En même temps, ce sont aussi ses avocats qui l'interrogeaient, donc c'était moins conflictuel. Mais voilà, on attend qu'il finisse les audiences avec Moussa Dadis Camara pour vous donner la parole, vous, Guinéens, et revenir sur ces différentes déclarations à la barre, déclarations suivies évidemment par tout le pays. La visite de Marine Le Pen au Sénégal. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI, et recevez mes meilleurs voeux, même si ça vient un peu tardivement.
Amine, n'est jamais trop tard. Bonne année à vous également, Mamadou. Le déplacement de Marine Le Pen a duré 3 jours dans votre pays. Il a suscité de vives réactions, en commençant notamment par l'ancienne première ministre, Aminata Touré. Elle a écrit une tribune chez nos confrères de Jeune Afrique. Elle a réagi ici et là, notamment sur Twitter. Elle s'est interrogée, que vient faire au Sénégal Marine Le Pen qui incarne en France le racisme et la xénophobie depuis des décennies, et vous aviez envie de réagir, Mamadou.
Oui, je partage un peu l'interrogation d'Aminata Touré, mais bon, il ne faut pas faire comme Marine Le Pen. Tout le monde sait que Marine Le Pen, elle est raciste, elle est ringarde, elle est violente. C'est l'incarnation de la violence politique dans le discours clivant en France. Pour autant, je ne suis pas d'avis qu'il faille la rejeter et ne pas l'accueillir au Sénégal. Moi, je trouve même qu'il faut ouvrir les portes du Sénégal et les portes de l'Afrique à Marine Le Pen. Elle dit que son voyage est pour tisser des liens avec des personnalités politiques en Afrique, tant mieux, même si le voyage a été gardé secret par son parti. Ouais. Ils ont également évoqué un désir de co-développement franco-africain, tant mieux.
Son entourage parle d'une nouvelle coopération avec l'Afrique, respectueuse, sans leçon de morale.
Oui, sans leçon de morale, mais également sans violence de la part de Marine Le Pen et de tous ses partisans. Parce que quand il parle de respect, je suis d'accord, il faut qu'on se respecte et qu'on se considère mutuellement. Je pense que ce voyage est parti d'un constat, d'une prise de conscience que la France ne peut pas se recroqueviller en elle-même, que la France ne dépend pas d'elle-même, la France dépend grandement de l'Afrique, et c'est heureux que Marine Le Pen et ses partisans le comprennent comme ça. C'est heureux qu'elle se déplace, qu'elle vienne en Afrique, qu'elle se frotte à d'autres cultures, qu'elle rencontre d'autres personnes. Et à partir de cela, je pense que sa posture va changer et qu'elle pourrait modifier son discours vis-à-vis des Africains et des musulmans et... Voilà, de tous ces étrangers qu'elle veut chercher de la France.
Merci à vous de nous avoir interpellés sur le séjour de Marine Le Pen au Sénégal. Le journal Wafadjri a titré « Marine Le Pen au Sénégal, l'extrême droite française émigre en Afrique ». Voilà, fin de citation. Allez, il nous reste deux minutes pour parler d'un sujet qui ne vous a pas laissé indifférent. L'absence du Maroc au CHAN, au championnat d'Afrique des Nations qui se tient en Algérie. Une absence due aux tensions diplomatiques entre Rabat et Alger. Bonjour Younes.
Bonjour.
Vous êtes à Rabat, justement, au Maroc. Vous avez réagi sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Vous regrettez, vous, ce qui s'est passé ces derniers jours entre la Fédération marocaine de football et l'Algérie?
Oui, justement, je regrette surtout la passivité de la CAF, son manque de réaction par rapport à cette problématique, parce que normalement, on doit sanctionner soit le Maroc, soit l'Algérie pour le fait que le Maroc n'est pas présent et qu'on prive tous les fans du football de la participation de cette équipe dans ce CHAN. Donc moi je vois qu'on doit laisser la politique très loin du football parce que ça envenime tout, même les relations entre les peuples. Moi, je ne crois pas qu'on a eu... droit au chant raciste contre les Marocains dans les gradins algériens. Si ce conflit a été résolu, c'est le Maroc qui était présent là-bas.
Ouais.
Mais les choses sont devenues plus compliqué.
Plus compliqué, plus tendu. Je rappelle que depuis un an et demi, les vols directs entre le Maroc et l'Algérie sont interdits. Les Marocains, eux, voulaient justement un vol direct Rabat-Constantine, alors que l'Algérie disait non, pas question. Vous prenez un vol Rabat-Tunis-Constantine. C'est comme ça, en raison des relations diplomatiques qui se sont dégradées entre nos deux pays. Il n'y a pas eu d'accord et on se retrouve effectivement avec un championnat d'Afrique des Nations sans les Lions de l'Atlas. C'est la fin d'appel sur l'actualité. Bonne journée.